Et bienvenue sur Paris Central, j'espère que tout le monde va bien. Le match de Ligue des Champions arrive, il approche. Je suis avec Nyx pour en discuter. Réco et Kev devraient débarquer. Comment vas-tu, Nyx?
Ça va très bien, Andrea. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour le match de demain soir.
Et bonjour à tous ceux qui sont dans le chat et spécial dédicace aux deux personnes qui viennent de Montréal. La première chose, le premier sujet, hein, la grosse news qui vient d'arriver, c'est la prolongation de Zaïre Emery. Comment tu te sens par rapport à ça?
Écoute, c'est très bien. C'est le futur du club. Je me rappelle que je disais à l'époque lui et Eman Kari, quand ils étaient en jeune, que c'était le futur du club. On a réussi à verrouiller un sur deux. L'autre, on ne sait pas ce que ça va donner. Il est encore du côté de Lorient. Mais ces petits-là, en fait, ils avaient une certaine harmonie au milieu de terrain que je pense que ce serait bien de garder sur le long terme. Et quant à Warren spécifiquement, il a prouvé, il a montré qu'il a du cran, qu'il peut jouer directement chez les pros, sans, et même en étant le meilleur, pour moi, milieu de terrain du Paris Saint-Germain cette saison. Donc en soi, c'est une très bonne nouvelle. Et je sais qu'il faudra attendre mars, je crois, pour qu'il puisse signer son contrat de 5 ans. Et du coup, c'est bien que le Paris Saint-Germain arrive à garder un de ses talents sur la durée, contrairement à celui qui est parti du côté du Bayern, Kwasi. Voilà.
Kwasi, oui.
Et toi, Réco, comment tu te sens avec la prolongation annoncée? Et pour préciser ce que tu disais, Nyx, en fait, c'est juste qu'on doit attendre qu'il ait 18 ans pour le prolonger. Tu ne peux pas signer avant. Et donc, il faut attendre son anniversaire. Et comment tu la sens, toi, la prolongation de Warren, Réco? Tu es content de la nouvelle? Pourquoi? Etc. etc.
Ouais, forcément content. C'est quand même rare, les joueurs, on va dire, qui sortent du centre de formation et qui ont ce niveau-là. Surtout au PSG après quelques matchs, parce qu'on a pu voir certains autres joueurs qui sont partis, et il a cité Kwasi, mais c'est vrai qu'il y a aussi Diaby, il y a Coman, etc. Mais je veux dire, les premières minutes qu'ils ont pu avoir, les premiers matchs qu'ils ont pu jouer au PSG, ils n'ont pas atteint le niveau que Warren a atteint, et ils n'ont pas montré non plus le potentiel que Warren avait, je trouve. Donc c'est bien de garder un joueur comme ça. Après, voilà, c'était dans les papiers depuis un petit moment, là, ça va se faire. C'est une bonne chose forcément. Espérons qu'il reste de très longues années, mais c'est clairement le futur du PSG. Et j'espère qu'il y aura d'autres joueurs qui vont sortir encore, à qui on laissera leur chance. Mais c'est pas tous les jours qu'il y en a qui ont le potentiel de Zaïre Emery. Donc même s'il y en a d'autres qui sont partis par le passé, faut pas oublier qu'à son âge, c'était pas le même niveau. C'était pas la même précocité, et puis aussi c'était pas non plus le même effectif, parce qu'avant c'était compliqué de se faire une place quand tu avais l'effectif pléthorique du PSG.
Kev, je te laisse y aller sur ta petite dédicace pour Warren, et d'ailleurs bonjour à toi, et je te laisse y aller pour la petite dédicace pour Warren qui a priori va prolonger.
Salut tout le monde. C'est comme l'a dit Rekoba, pardon. C'est une très bonne chose parce que force est de constater que malgré son âge, c'est notre milieu de terrain qui est le meilleur depuis le début de la saison. Et c'est toujours très intéressant d'avoir un joueur formé au PSG qui soit parisien dans l'âme, qui aime le club et qui arrive à sortir du centre de formation. Il y a beaucoup de joueurs qui sont précoces, qu'on annonce comme des grands talents et qui finalement n'arrivent jamais à passer ce cap aussi. Lui arrive à le faire. Et je trouve ça top parce qu'on n'a plus beaucoup de joueurs dans l'effectif avec cette longue blessure de Kimpembe qui sont vraiment issus du centre de formation, qui sont parisiens, qui le sont à 100%. Quoi. Donc c'est très bien. Et voilà.
Et pour vous, vous le voyez, je ne sais pas, vas-y Réco, tiens, t'es en haut. Tu le vois aller jusqu'où, Warren?
Oh, je pense que ça peut être un concurrent dans les futures années pour le Golden Boy. Hein. Clairement, là, il figurait déjà dans le classement, si je ne me trompe pas. Mais s'il continue comme ça, s'il continue à être aussi professionnel et à se développer aussi vite, pour moi, en plus de ça, il a un entraîneur qui peut lui apprendre des choses complètement différentes de son jeu et peut-être même bosser sur ses points faibles, qui est le jeu, on va dire, le jeu avec ballon, le jeu de passe, la vision du jeu, etc. Je pense qu'il peut vraiment continuer à se développer beaucoup et devenir peut-être un futur Golden Boy, en tout cas un des tout meilleurs milieux du monde.
Et toi, Nyx, tu le vois se diriger vers quel type de milieu? Ah, Nyx, on t'entend pas.
T'as coupé ton micro.
Ouais, je disais que j'aime bien son côté box-to-box et j'aimerais pas qu'il le perde, parce que j'ai vu que certains voudraient qu'à terme on le mette numéro 6, quand Xavi Simons va revenir par exemple, qu'il ait des relayeurs un peu plus offensifs dans le dernier 20 mètres. Mais moi j'aimerais bien garder ce côté parce que je trouve vraiment qu'on a été en difficulté en Europe, c'était vraiment ces courses qui nous ont fait énormément de bien et je trouve que ça fait des années qu'on voulait un milieu de terrain qui était vraiment box-to-box, qui pouvait partir de très loin avec une course de 30 mètres et déséquilibrer tout le bloc adverse. J'espère qu'il va continuer comme ça. Après, concernant la suite, j'ai vu son agent, enfin je crois pas que c'est son agent, Jorge Mendes, j'ai vu qu'il parlait sur le fait que ça pourrait être un ballon d'or un jour, en tout cas j'espère. Mais vu la précocité à laquelle qu'il a depuis qu'il a commencé, ça m'étonnerait pas qu'il finisse très très haut ce gamin.
Et toi, Rico, du coup, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels il doit se focus? Est-ce qu'il y a des points faibles clairement identifiables et lesquels il doit relever en priorité, enfin, sur lesquels il doit bosser en priorité pour toi?
Je pense que c'est plus, on va dire, le jeu de passe. Alors après, il doit continuer à bosser ses points forts, continuer à, comment dire, à percuter, ne pas perdre on va dire, cette insouciance-là aussi. On peut voir par exemple un Kylian Mbappé, il paraît, après c'est l'âge, c'est comme ça, mais il paraît peut-être moins insouciant, il fait moins de courses. J'espère qu'un Zaïre Emery, au contraire, continuera à en faire tout autant. Important aussi de bosser ses frappes de loin, forcément, puisqu'il se retrouve souvent dans cette zone. Mais savoir faire aussi la différence dans, on va dire, dans d'autres secteurs, savoir trouver des passes intéressantes, développer sa vision de jeu, développer son intelligence de jeu, savoir aussi, on va dire, la gestion d'un match, gérer ses temps forts, ses temps faibles, pouvoir tenir 90 minutes et pouvoir enchaîner, même s'il le fait déjà très bien grâce à un physique
Là-dessus.
exceptionnel. Mais forcément, continuer à bosser ses points forts, mais aussi se développer sur d'autres arcs pour pouvoir être vraiment un milieu de terrain ultra complet comme le sont à tous les grands milieux de terrain comme Modric, Iniesta, etc. Forcément.
Et toi, Kev, est-ce que pour toi, est-ce qu'on peut résumer son profil avec un certain nombre de buts et de passes décisives attendues chaque année? Est-ce que c'est ce genre de profil de milieu qu'on peut définir comme ça? Et si oui, combien de buts t'attends qu'il mette chaque année? Parce que mine de rien, il est parti sur des belles bases, hein, là-dessus.
Il est parti sur des belles bases, donc c'est aussi beaucoup plus simple dans ce PSG-là de marquer des buts avec un milieu de terrain de projection comme il l'est. Mais pour le moment, je ne vais pas faire d'un gamin de 17 ans une base de buts ou de passes décisives. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit constant et continue dans ce qu'il travaille. Et pour rejoindre Rico, en fait, pour moi, il a quelques petits trucs à améliorer parce que. Voilà, quand on est un jeune joueur, on a encore beaucoup de choses à améliorer. Mais ce qui est très, très important quand on est joueur de haut niveau, c'est de mettre en avant tes qualités. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup oublient. On notifie beaucoup les défauts de certains joueurs. Mais à un certain âge, à un certain niveau, tu ne gommes plus tes défauts. Malheureusement, tu les gommes en mettant en avant tes qualités et en travaillant vraiment ce point qui sont tes qualités. Tu vois, un gars comme Mbappé, sa qualité première, c'est la vitesse. Donc, qu'on continue à travailler avec lui sur la vitesse. Je prends un exemple vraiment qui est très, très imagé, mais il n'y a pas que la vitesse, bien sûr. Hein. Mais voilà, donc ouais, c'est un milieu box-to-box, pour moi, à la Matuidi, mais bien meilleur et bien plus complet. C'est un milieu de projection qui fait beaucoup de courses, qui a un gros volume de jeu, qui a une capacité physique exceptionnelle à son âge, qui en plus techniquement est quand même au-dessus de la moyenne. Je pense vraiment qu'il faut qu'il travaille. Et ça, c'est pas, ça peut s'améliorer vraiment, son toucher de balle. C'est-à-dire sa première touche et le moment où il doit lâcher son ballon. Des fois, il lâche son ballon un peu trop tôt, des fois un peu trop tard. Et je te dis, son premier contrôle de balle qui permet à chaque fois de sortir de certaines situations, de se mettre dans le sens du jeu. Ça, c'est extrêmement important pour un milieu de terrain de classe mondiale, on dira.
Surtout dans les phases basses, je trouve. C'est dans les phases hautes, en fait, tu t'aperçois
Mais dans les
que
phases hautes,
dès qu'il se projette, il fait toujours la bonne passe, en fait.
ouais, mais en fait, dans
C'est
les phases
quand il est
hautes,
bas sur le terrain.
il arrive à compenser son mauvais positionnement ou son mauvais contrôle par une puissance physique où il arrive à passer devant son vis-à-vis. Tandis que dans une position basse, si tu es sous pression, tu es plus souvent en difficulté. Donc, en fait, vraiment, il doit améliorer tout ça. Et ce qui est très important que j'ai oublié de souligner, c'est qu'il a la chance d'avoir un coach qui travaille d'une manière au PSG, qui aime beaucoup travailler avec les jeunes, Il a la chance d'être capitaine en espoir avec un autre coach qui a quand même un vécu en tant que joueur et qui veut voir autre chose aussi de Warren. Et outre ça, en équipe de France, un coach qui est totalement différent de ce que fait Luis Enrique et Thierry Henry, qui est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus sur un travail tactique et défensif. Donc, je trouve que c'est très, très intéressant à son âge d'avoir accès à trois coachs différents qui ont quand même un certain vécu, une expérience. Et c'est, je pense que c'est top pour lui, pour sa progression.
Alors ouais, Alex, en fait, ouais, peut-être qu'on en parle un peu beaucoup, mais après, tu sais, c'est mine de rien, c'est tout bête. Hein, c'est un joueur marqueur par rapport au club. Encore une fois, c'est un gamin. Et là, tu es sur le point de le prolonger pour 5 ans. Donc, c'est normal qu'on fasse un petit peu un focus sur lui.
Ouais, puis c'est un podcast.
Vas-y.
C'est un podcast. Ouais, puis c'est un podcast du PSG, donc je pense qu'il y a un sujet d'actualité important sur le PSG, sur un de nos joyaux. Écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Tu veux qu'on parle de Lens ? Enfin, je sais pas. Ça me dégoûte ce genre de commentaire, vraiment.
Après, on sait pas quelle intentionnalité il avait, mais bon, pour la dégoûter, c'est juste expliquer. Ah,
on a un joyau, on le sécurise, autant en parler.
Pour remettre dans le contexte et avec Alex, parce que Rico, je trouve que tu as été un peu fort. Je pense qu'il veut qu'on parle du match de demain, parce que je pense que c'est ce qui est dans leur tête.
On peut en parler 5 minutes, ou dans ce cas, alors je laisse ma place, il vient à la place, il fait le podcast. Je sais pas.
Oui, c'est bon de réveiller, Rico, aujourd'hui. Bon, allez, vas-y.
est-ce que Nix, tu voulais réagir toi sur Warren, ou justement est-ce qu'on passe un peu à la suite?
Non, on va passer à la suite, c'est ce que tout le monde a envie, je pense.
Du coup, je te lance, parce que ça fait un petit moment qu'on t'a pas entendu. On va commencer, alors on va parler, hein. J'ai vu des compos qui commençaient à apparaître, etc. On en parlera après de la compo, et on va commencer par envisager, et d'ailleurs j'en profite pour saluer Cyprien, qui est un nouveau membre, Cimermex, ça nous envoie de la force, c'est très cool de ta part. Et donc Nix, ouais, on va commencer par envisager, si jamais ça se finit très bien, qu'on est premier, bah on peut avoir comme adversaire, a priori, l'Inter, la Sociedad, Naples, Leipzig, l'Atlético ou l'Azio, le PSV, Copenhague, Galatasaray United, Porto ou Shakhtar. Est-ce qu'il y a une confrontation qui te fait particulièrement envie, toi ?
Si on finit premier, si on finit premier, faut voir qui se qualifie dans le groupe de United. Je pense que ce serait ça qui m'intéresserait, parce qu'il y a soit tu tapes Copenhague, soit Galatasaray, ou soit United. Donc je pense que vraiment c'est le plus simple, parce que sinon t'as quoi, l'Inter ou Sociedad, il n'y a aucun des deux que j'ai envie de taper en huitième. Enfin, je dis pas que j'ai peur, hein, mais si je pouvais esquiver pour arriver en quart sereinement, je préfère. Les mecs qui te disent faut taper tous les gros pour gagner la finale, on voit chaque année que pour taper tous les gros, on arrête en huitième. Donc autant prendre quelqu'un qui est plus ou moins léger, tu arrives en quart tranquillement. Donc moi je vois bien un petit ou même Porto Shakhtar. Porto ça joue bien, ils ont posé des difficultés au Barça, mais en Porto Shakhtar aussi ça m'irait bien.
Et toi Rico, t'es un peu sur la même ligne que Nick, tu veux un adversaire très à ta portée ou tu veux un petit peu de difficulté?
Bon, un entre-deux, ce serait bien. La Sociedad, ça joue bien. Pourquoi pas? Après, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils vont finir. Pourquoi pas un United? C'est une équipe qui est capable de nous battre, mais c'est une équipe aussi qu'on est capable de battre. Ça peut être un bon test, il y a de bons joueurs. Finir premier, c'est quand même important. Donc, après, l'adversaire, normalement, qui finit deuxième, sera à notre portée. Donc, peu importe l'adversaire. Mais si on peut avoir un petit peu d'adversité et éviter de tomber contre un trop petit, ce serait quand même mieux, je trouve.
Mais ouais, du coup, tu l'as touché. Kev, est-ce que pour toi, ce n'est pas vraiment l'année où il faut finir premier, là ? Quand on regarde qui y a...
Pour moi, avant de faire tous ces calculs, il faut déjà gagner demain, parce que c'est hyper important. Je sais pertinemment, et ce n'est pas être défaitiste, que finir deuxième, au vu des poules, c'est qu'en mars... on sera tranquille à la maison en semaine. Tu vois, on se qualifie jamais à l'extérieur. Donc, finir premier et gagner demain soir est important. Maintenant, il n'y a aucun deuxième qui me fait peur. J'étais en train de lire le commentaire. Et que ce soit Copenhague, Galatasaray, c'est pas trop mal. Le PSV, ça ne me fait pas peur. Le Napoli, cette saison, ne me fait pas peur. Inter ou Sociedad, je suis désolé, si on a des ambitions, ça ne me fait pas peur. La Lazio, ça ne me fait pas peur. L'Atlético Madrid, c'est plus intéressant, mais je ne vois pas la Lazio s'imposer à l'Atlético ce soir. Et Leipzig, Porto ou Shakhtar, non, je suis désolé. Il faut absolument finir premier, gagner demain. Et derrière, on sait qu'avec un match retour à domicile, ce sera très difficile de sortir le PSG en huitième de finale.
Ouais, mais tout à fait. Après, c'est pour moi, c'est vraiment la saison où il faut finir premier. On a quasi jamais vu une telle disparité entre les premiers et le deuxième. Normalement,
Jamais.
les deuxièmes, c'est beaucoup plus dur, quoi. Je te laisse rebondir là-dessus, Nix.
Ouais, clairement, parce que au niveau du tirage, le tirage, il a été fait et les groupes, ils sont pas homogènes comme d'habitude. Il a été fait d'une manière où il y a quasiment un gros par groupe. Et du coup, après, ils se finissent tous premiers à 15, je crois même peut-être le Bayern, il peut faire 18 points ce soir ou demain soir. Et du coup, tu te retrouves avec tous les gros qui finissent premiers et les deuxièmes, c'est le meilleur des moins bons. Donc là, le Paris Saint-Germain, il finit deuxième. Tu vas te taper, du coup, des Bayern, des Arsenal, Real Madrid, Barça, City. Il n'y a que dans notre groupe où en fait c'est plutôt homogène et du coup on ne sait pas qui va finir en premier, on ne sait pas qui va finir quatrième alors qu'on est à la dernière journée.
C'est sûr, c'est sûr.
C'était vraiment le groupe le plus intéressant cette saison. Tout le reste c'était des groupes ultra ennuyeux et où il y avait en gros qui entre guillemets tapait sur tout le monde.
Donc, est-ce que quelqu'un veut revenir sur la potentielle première place ou pas, ou on attaque direct la potentielle deuxième place?
Non, mais on va parler du match hein, parce que je pense que ça intéresse que ça. Hein.
Bon, on va quand même parler du deuxième, parce que pour le coup, le deuxième, toi, enfin, si tu finis deuxième, c'est Bayern, Arsenal, Madrid.
Ah
Bon,
oui, non,
on
mais les
va
gens sont pas
faire
contents, donc
ils ne sont pas contents, c'est pas grave, mais
toi, toi aussi, tu n'es
ils
pas content ce
font
matin.
Les commentaires là, c'est dinguerie, on dirait un.
Ils vont aux toilettes, ils reviennent dans 5 minutes, s'ils ne sont pas contents, et dans 5 minutes, on sera en train de parler du match. Mais juste, et puis surtout, le match, on ne va pas trop, parce que je vous rappelle, demain, enfin, soyez tuning, il y a avant-match, et puis surtout, il y a après-match, avec un après-match qui peut être d'anthologie. Mais très rapidement, du coup, je t'envoie pas tout de suite au charbon, parce que tu étais chafouin, et je vais envoyer Kev sur la première place. Si jamais on finit deuxième, là, par contre, les premiers en face, ils font peur.
Oui, mais de toute façon, comme j'ai dit, il faut absolument pas finir deuxième. Si tu finis deuxième, dans tous les cas, pour moi, tu es éliminé début mars. On connaît la chanson du match à l'extérieur début mars et du match à domicile le 14 février. Donc voilà, c'est malheureusement, il faut gagner demain soir. Ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, on est dans une position où on ne doit pas faire de calcul. Contrairement à Dortmund, qu'avec un match nul, ils sont obligatoirement premiers. Demain, tu dois les porter. Tu dois te sortir les doigts et tu dois les gagner à Dortmund, point final. Peu importe de la façon dont tu marques, peu importe de ce qui se passe, un but, j'allais dire certains termes, mais un but des fesses de Kylian Mbappé à 95e, je prends, c'est terminé, on n'en parle plus et on sera content. Pour moi, c'est le match demain le plus important de la phase de poule sous l'RQSI.
Et détail.
Détail, parce que nous n'avons jamais été éliminés de Ligue des Champions en phase de poule. Parce que nous sommes sur un nouveau projet, parce que nous avons investi beaucoup d'argent cet été, et qu'aujourd'hui, on sait pertinemment que pour une fois qu'on a laissé les clés du camion à un coach qui pour moi, est chapeau 1, et depuis Ancelotti, nous n'avons pas eu un grand coach. Non, mais c'est pas un grand
Oui, mais
coach
c'est pas
chapeau 1.
l'envergure.
Je te parle de ça. Aujourd'hui, le projet serait remis en cause, serait remis en question, il y aurait tout un tas de choses négatives autour de ce projet. Donc, il faut absolument passer les poules.
Est-ce que tu as la même lecture, toi, et quoi? Est-ce que ce serait un drame si on n'était pas en Ligue des Champions?
Ouais, pour moi, ouais, clairement, ce serait un drame. Alors après, on s'en remettra, hein, évidemment. On jouera l'Europa League, on va essayer de la gagner, on sera derrière le PSG, et puis on repartira sur une année prochaine avec un gros mercato, et on va laisser le projet se faire, on va laisser le temps à Luis Enrique, etc. Mais évidemment que ce serait un échec. Tu fais tourner le projet autour de Kylian, tu vires tous tes indésirables, Messi, Neymar et Verratti. Tu dis clairement que c'est eux les maux du PSG et à cause d'eux que tu peux pas aller plus loin, etc. Tu fais un gros investissement quand même sur le mercato avec des attaquants en pagaille, avec un milieu où tu fais péter une clause, etc. Un Lucas Hernandez qui est censé te sécuriser derrière. Tu fais confiance à d'autres joueurs comme Marquinhos que tu finis par garder et que tu maintiens capitaine, Donnarumma, etc. Donc au final, tu as quand même une équipe sur le papier qui est largement, enfin largement, qui est meilleure en tout cas que les autres. Dans ce groupe, clairement, quand il y a eu le tirage, on a dit, tout le monde était d'accord pour dire que oui, c'est un groupe de la mort, mais le Paris Saint-Germain reste quand même un petit peu au-dessus en termes d'effectifs, on va dire peut-être de standing actuellement des autres. Et au final, tu te ferais sortir hein, et tu te ferais reverser en Europa League. Pour moi, évidemment, ce sera un échec, comme l'a dit Kevzor, ça ne s'est jamais arrivé sous l'ère QSI. Il y a des fois où on a eu des gros groupes et pourtant on s'en est sorti. Il y a des fois, à trois journées de la fin, on était dernier ou avant-dernier. Je crois que c'était avec Leipzig et Manchester ou quelque chose comme ça. On a fini par se qualifier à la dernière journée. Et donc oui, pour moi, ce serait clairement un échec parce qu'avec l'entraîneur que tu as et avec les joueurs que tu as, même si c'est une reconstruction, tu n'as pas à te faire sortir en phase de poule de Ligue des Champions face à un Dortmund qui est décimé chaque année, qui se fait prendre ses meilleurs joueurs chaque année, qui a beaucoup de jeunes, face à un Milan qui n'a rien à voir avec l'an dernier et qui avait énormément de blessés et où son meilleur joueur n'était pas là deux fois face à nous, et face à un Newcastle qui retrouve la Ligue des Champions après des années et des années, qui là, depuis 10 matchs, ils mettent la même équipe parce qu'ils n'ont personne sur le banc. Enfin, quand même, les gars.
Nick, je te laisse réagir.
Moi, je vois des commentaires dans le chat et tout, mais moi, je suis très, très confiant pour demain. Je pense qu'on va finir premier et puis ça va bien se passer. Est-ce que ce serait une catastrophe si on va en Europa? Ouais, après, franchement, l'éternel débat, on en a parlé plusieurs fois. Est-ce que c'est mieux de sortir en huitième et se prendre une fessée que faire un parcours en Europa? C'est l'éternelle question. Moi, j'ai pas de préférence à ce niveau-là. Un trophée, ce serait bien. Après, si c'est pour sortir en huitième et se prendre... comme le match que j'ai vu l'année dernière au parc, là, face au Bayern, il m'a dégoûté. Si c'est pour revoir la même chose, autant aller en Europa. Le match au parc, on n'a rien proposé face au Bayern avec Neymar, Messi et je crois que c'était Ekitiki ou je ne sais pas qui. J'ai jamais vu un match en Coupe d'Europe aussi dégueulasse du Paris Saint-Germain. Jamais de ma vie, j'ai vu ça. Il n'y avait rien. Donc, si c'est pour aller proposer rien comme ça, let's go to Europa et faisons quelque chose d'intéressant.
Ah, Nix, je ne peux pas te laisser dire ça.
Non. En fait, ce que j'ai vu l'année dernière, les gars, non, je refuse de voir ça. Je refuse de voir.
Frérot, on n'est pas là pour faire des cours de géographie le jeudi soir pour savoir à quelle heure ou contre qui on va jouer en Europe à 19h. On est le PSG quand même. Le truc, c'est que je veux bien qu'on ne soit pas un club qui ait gagné X Coupe d'Europe, qu'aujourd'hui, quand on parle de la C2 qu'on a gagné, plus personne ne s'en souvient ou plus personne ne veut le remettre sur la carte. Mais déjà, premièrement, si tu es reversé en Europa League, tu n'es pas sûr de la gagner. Il y a quand même des grands clubs qui y sont. Donc, imaginez, en fait, déjà, quand on se fait éliminer en huitième ou en quart de finale de Ligue des Champions, comment on est la risée de l'Europe. Imaginons, on se fait éliminer en quart de finale de Ligue Europa. On passerait pour des clowns. On n'est pas
fait pour être
clairement un club d'Europa League. Je ne veux pas jouer le jeudi soir. Le jeudi soir, ce n'est pas pour nous. On est un club qui joue le mardi ou le mercredi. Tous les grands club du monde, d'Europe, nous respecte. Quand on voit qu'on finit second de poule, à chaque fois, ils font les zooms sur les directeurs sportifs, sur les coachs ou les présidents des clubs adverses qui nous tirent. Ils sont à deux doigts de faire un infarctus ou quoi que ce soit. Donc, aujourd'hui, nous sommes un club qui doit être amené à jouer au minimum les quarts de finale de Ligue des Champions tous les ans. Force est de constater qu'on s'est souvent fait éliminer en huitième, il n'y a pas de souci, mais je préfère me faire éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions que faire un parcours en Europa League. Manchester United de Mourinho, quand ils l'ont gagné l'Europa League, ils ont été extrêmement critiqués, alors qu'eux, ils ont des Coupes d'Europe en plus. Et n'avaient plus rien gagné.
Ils ont été extrêmement critiqués, mais ça a aussi permis de relancer, et notamment ce qu'on se souvient de ce Manchester United-là, c'est par rapport à Mourinho et le côté positif de Mourinho, c'est cet Europa.
Ouais, enfin, relancer quoi? Regarde la situation de United aujourd'hui. Ils n'ont rien relancé, United. Hein. Et puis le Barça, ils n'ont toujours pas relancé la machine non plus. Ça fait plusieurs années aussi. Liverpool, c'est complètement différent.
C'est le seul club
qui se qualifie aussi. Voilà. Mais les autres, on ne les retrouve toujours pas. Donc non, franchement, se contenter de l'Europa League. Pour moi, les supporters du Barça et de Liverpool, ils ne sont pas contents d'avoir été en Europa League. Ils ne sont pas dit, ça peut être un bon truc.
Pour le coup, Rico, tu réponds à côté de ma remarque. Je ne te parle pas de ce qui est devenu le club derrière. Ce que je veux dire, c'est que contrairement à ce que dit Kev, notamment pour United, le passage j'ai oublié le nom de Special One.
Mourinho
à United, un des aspects positifs de son passage, c'est la campagne en Europa.
Ouais, mais est-ce que les supporters ils vont être contents d'une campagne en Ligue Europa? Au final, le club avec Mourinho, il a été nulle part et aujourd'hui, il est nulle part. Donc, quelque part... T'as quoi à garder de ça?
Mais
la Ligue Europa, ouais.
Bon. Mais même, regardez le FC Séville.
Est-ce que la vie des supporters est importante? Et quel est le niveau réel du Paris Saint-Germain? Est-ce que le niveau réel du Paris Saint-Germain, c'est pas l'Europa? Vas-y, Nick, t'as envie d'y aller.
C'est ça que j'essayais de dire à Kevzor. C'est qu'en fait, dans une année normale, je suis tout à fait d'accord avec lui. Notre standard, c'est Ligue des Champions, huitième de finale, etc. Seulement, quand je regarde l'équipe actuelle, vous voulez aller où avec ça? En fait, y a, à part Zaïre Emery dans ce milieu. Moi, je vous ai déjà dit depuis des années, si tu as un milieu de terrain qui est faible, tu ne vas rien faire avec des champions. Et là, le milieu il est encore plus faible que ce que j'ai vu depuis très, très longtemps. Parce que limite, les dernières années, tu avais des mecs qui étaient nuls. Mais dans les grands matchs, ils pouvaient élever leur niveau. Je pense notamment à Paredes qui fait des matchs, un ou deux matchs de fou. On peut penser à Gueye qui était gaze, mais face au Real Madrid, il sort une masterclass. Là, dans ce milieu de terrain, à part Zaïre Emery, je vois personne qui peut élever son niveau face aux grandes d'Europe. Donc, moi, je parle juste en tant qu'année de transition. Kevzor, il dit que les directeurs sportifs, ils ont peur de nous quand on fait les tirages. Mais c'est que sur le papier, les gars. Sur le papier, tout le monde a peur parce qu'on avait Mbappé, Neymar, Messi. Mais quand tu arrivais sur le terrain, je me rappelle à City, on a été, ils nous ont marché dessus. Le Bayern, c'était n'importe quoi. Moi, je dis que cette année, je ne le sens pas. Personnellement, c'est mon avis. Je pense que l'effectif est trop mal construit pour que ça soit cohérent. Donc, à ce niveau-là, Luis Enrique, il faut le laisser travailler avec la pression. Si on va en huitième, en quart, très bien, on prend. Après, si on va en Europa sur une première année d'un projet où on a tout changé, c'est pas catastrophique. Moi, je trouve que c'est pas catastrophique. À la base, on avait dit on laisse le temps à Luis Enrique de travailler. Laissez-lui le temps. Non. Je ne sais pas pourquoi cet été, vous avez dit des choses. Et là maintenant, au mois de décembre,
on a changé de discours. Mais non, ça n'a rien à voir. On va laisser du temps. Allez. On va laisser du temps. Si on se fait sortir en huitième ou en quart, si on se fait sortir en huitième ou en quart, il n'y a pas de problème. On ne va pas être alarmiste, on ne va pas dire tout est à jeter. Non, on va continuer avec le même projet, le même entraîneur. On n'a jamais dit qu'on voulait l'enlever, par exemple. Continuer justement à peaufiner cet effectif, à renforcer le milieu de terrain. Mais pour nous, en tout cas pour nous, on ne peut pas se satisfaire d'aller en Europa League parce que l'effectif est mal construit. Non, on est le Paris Saint-Germain, on doit se qualifier au moins. Et après, tu te fais sortir en huitième ou en quart, on verra les adversaires qu'on tombe. Et puis derrière, on continuera le projet. Mais se satisfaire d'une place en Europa League, non, franchement, je peux pas accepter ça.
Et puis même, pour compléter ce que tu dis, Rico, je suis désolé, mais aujourd'hui, on ne peut pas, avec ce nouveau projet, prendre le risque d'aller jouer en Europa League. On sait très bien comment sont les supporters, comment sont les spécialistes football, les médias concernant le PSG, etc. etc. Vous voulez laisser du temps à Luis Enrique pour son projet et qu'enfin le club et des gens comme Nasser se soient un petit peu délestés de certaines tâches, eh bien, il ne faut absolument pas être en Europa League. Même si tu te fais éliminer en huitième, on a l'habitude de se faire éliminer en huitième, on connaît ça. Des coachs ont fait des choses, des dingueries en huitième de finale de Ligue des Champions. On subit des choses que personne n'avait subies et on leur a laissé le temps, une saison de plus. Donc concrètement, on ne va pas se mentir, il faut qu'on soit en huitième de Ligue des Champions obligatoirement. L'Europa League, ce n'est pas le même niveau. Le FC Séville, il a gagné plusieurs fois et à chaque fois, ils se font reverser en Europa League en phase de poule de Ligue des Champions. Chaque fois, quasiment.
Ça n'a rien à voir, ça, c'est par rapport
au... Ouais, non, mais je veux dire, c'est pas le niveau. Je suis d'accord,
mais après, si tu veux, juste parce que vous l'avez beaucoup défendu et que l'autre... Enfin, je ne suis pas du tout d'accord que la lecture des supporters sera relative au parcours. Et si tu, par exemple, tu fais une très bonne campagne, pas forcément même en la gagnant, mais tu vas en demi et le demi, ça passe un cheveu et clairement, tu fais un bon match en étant reversé en Europa League et que l'année prochaine, tu es en Ligue des Champions et que tu fais une très belle campagne, t'inquiète pas que ça n'aura rien changé. Et le fait de gagner le temps et de machin et de trucs et d'avoir un espace où médiatiquement, la pression, concrètement, elle sera moindre. Parce que tu vois, tu es en train de dire, mais par exemple, un huitième de Ligue des Champions, oui, un huitième d'Europa, c'est moins mis en avant. Ça va être plus critiqué, mais ça va être beaucoup moins mis en avant. Ça fait beaucoup moins la une, ça fait beaucoup moins jacté, ça fait beaucoup moins, etc., etc. Tu as plus d'espace pour travailler, tu as une pression du résultat qui est moindre. Et le truc, c'est qu'à toujours définir, on a passé notre temps à définir, tu dis, on a pris l'habitude de sauter en huitième. Oui, c'est vrai, on était devenus les Harlem Globetrotters et on était pas... Moi, les directeurs sportifs, ils n'avaient pas peur de nous taper parce qu'on était toujours ridicule dans nos confrontations en aller-retour. Et on l'a toujours été. Et l'être une fois de plus, je vois autant d'arguments comme quoi c'est dommageable qu'être en Europa. Ça c'est bien et puis tout le reste c'est de la merde, je ne suis pas du tout d'accord.
Je vais te donner un exemple, Drias, très concret par rapport à ce que le PSG actuellement a subi. Quand on va en demi-finale de Ligue des Champions, qu'on élimine le Bayern et le Barça, qu'est-ce que les gens retiennent? Qu'on s'est fait taper dessus par Manchester City alors qu'on est en demi-finale. Quand on va en finale du Final 8, Qu'est-ce que les gens retiennent? C'est le Final 8. Alors imaginez être reversé en Europa League et ne pas la gagner en plus. Et ne pas la gagner. Parce que y a des gros clubs en Europa League aussi. Donc, il faut rappeler que notre palmarès européen est vierge. Donc, non, peu importe, notre palmarès européen n'est pas vierge. On a gagné une C2. Mais quand même, merci de nous faire ce rappel. Mais aujourd'hui, pour le bien de ce projet, il est primordial de se qualifier en Ligue des Champions pour la sérénité de ce projet, pour la
Je suis pas d'accord
continuité,
avec, je suis
pour
pas du tout
travailler sur
d'accord
une
avec ça.
base tranquille, etc., etc. Moi, je
Pas
le
du tout
dis
d'accord.
haut et fort, si
Hein?
on est en Europa League, c'est une catastrophe pour le projet.
Bah, tu
Bah,
le dis, mais si tu
bien
veux,
sûr, mais après,
c'est
chacun
ton
son avis,
avis,
je
c'est ton
respecte les
avis,
avis de tout le monde.
et après moi là-dessus, j'ai vraiment un avis différent. Et si tu veux, j'entends hein, ce que tu dis. Et on pourra trouver matière à, si ça se produit, à te donner au moins partiellement raison. Mais je pense que moi, le club, au contraire, peut se relever, peut s'enrichir. Et non, je préfère pas être ridicule en Europa plutôt qu'en CERN. Ça n'a rien à voir. Je préfère avoir justement une équipe qui est cohérente. Moi, le truc qui m'a épuisé émotionnellement par rapport à ce club, c'est arriver en Europe et se révéler être ridicule. Ridicule dans tes intentions, ridicule dans la réalisation de tes intentions. Et moi, c'est ça qui m'a saoulé. Et moi, ce que j'attends, c'est qu'on soit une équipe qui se bat, qui produit sur le terrain un match de grande qualité. Et je vais laisser le Dix y aller parce que je commence à parler beaucoup alors que je suis l'autre. Et c'est pas très raisonnable. Donc, Dix, let's go.
Je tiens à dire, parce que j'ai vu dans les commentaires, que en fait, je suis optimiste. Moi, depuis le début de mon intervention, je vous ai dit qu'on va gagner, on va être premier. Moi, je parlais juste au cas où ils nous font ce qu'ils nous font d'habitude, ou genre à la 89e minute, ils font une dinguerie, ou que Donnarumma il fasse une boulette, etc. Mais moi, dans mon état d'esprit, je pense que Dortmund, on va même les écraser. Ça va même pas être 1-0, on va leur marcher sur la tête. C'est pas ça la question. La question, c'est que pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'Europe, moi, je tiens à dire que dans les années précédentes, l'année 2020 et 2021, où on fait finale, demi-finale, moi, je ne les prends pas en compte dans mes analyses. Pour la simple et bonne raison que les 2 années, on a fait des parcours exceptionnels, truc, il n'y avait pas de public. Donc, en fait, on voit très clairement qu'il y a une corrélation entre pas de public et les performances du Paris Saint-Germain. Dès qu'on va à l'extérieur, on perd. Sur toutes les dernières années, dès qu'il y a Manchester, qu'on s'est qualifié, pas de public. Qu'on va jusqu'en finale avec le Bayern, il n'y a pas de public. L'année où on sort en demi-finale face à City, tu remarques un truc fou. Barça, public, tu passes. Bayern, pas de public. Enfin, Barça, pas de public, tu passes. Bayern, pas de public, tu passes. T'arrives à City, il y a du public, tu perds. Ben, moi, je ne peux pas trouver une corrélation plus grande que ça. Donc, en fait, moi, je pense que cette
Chelsea
année.
match retour public.
Où?
Chelsea match retour public.
Ah, mais
Voilà, on est
y
contre
a des contre-exemples.
Nice.
Non, mais si tu veux,
Et ça
Kev, il y a
date
des
de quand?
contre-exemples. Mais c'est des contre-exemples parce que la ligne qui définit, c'est quand même quelque chose que tu retrouves
Oui.
souvent. Tu trouveras toujours des
À
contre-exemples. Mais
l'extérieur, avec du public, on ne s'est jamais qualifié à part à Chelsea. C'est contre un grand
voilà, c'est
club,
pour
ça
ça que
c'est
je lui ai
sûr.
dit de ne pas compter sur cette année sur le fait qu'il n'y ait pas de public. À part si vous savez qu'il y a un Covid qui revient, moi
Ben, je
je
l'avais
pense
la semaine dernière, donc si
que.
tu veux que je fasse quelque chose.
Bon, on va lâcher le sujet parce qu'il y a, y a ça
Non, mais
devient
on
presque, ça
c'est
devient
intéressant, mais
presque,
bon.
non mais si tu veux ça devient presque une
Oui,
arlésienne. Est-ce que
bien
je veux de
sûr.
l'Europa, est-ce que j'en veux pas, etc.
J'en
Et
ai
de
pas
toute
d'accord, mais.
façon, à partir de la semaine prochaine, on parlera dans la réalité de la chose et on arrêtera d'être dans le fantasme et de s'affronter sur moi je préfère ci, je préfère ça.
Juste
Mais
pour répondre
voilà,
à
on va
Brad,
se projeter.
Juventus déjà qualifié. Voilà, c'est tout. Ce qui m'a
On
posé
va
et
se
la Juventus.
projeter. Alors, je n'ai pas compris ce qu'a dit Nix, mais on va se projeter sur maintenant. Bah, on est qualifié. On est qualifié. Elle est là. Vous attendez quoi cette saison? Je te laisse
Si
y
on
aller.
se
Bah,
quitte.
Kev, par exemple, vas-y, commence, Kev.
Du coup, on est qualifié. Vous attendez quoi cette saison? Mais, comme je te dis, honnêtement, si on fait un beau parcours en Ligue des Champions et que le projet de jeu de Luis Enrique continue à être travaillé et qu'on fait pas des, qu'on ne vit pas en fait une désillusion ou une hontada ou je ne sais comment vous voulez l'appeler, comme l'année dernière contre le Bayern, comme l'année d'avant contre le Real, comme contre le Barça. En fait, moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait de la continuité dans le projet. C'est-à-dire que si éventuellement on se fait éliminer en huitième face à meilleur que nous, mais qu'on a montré de belles choses, je vais prendre l'exemple de Carlo Ancelotti, qui était le dernier coach à points qu'on avait quand on se fait éliminer par le Barça sans perdre ni le match aller ni le match retour. Est-ce que quelqu'un a retenu à ce huitième de finale-là qu'on avait été éliminé? Qu'est-ce que quelqu'un a dit? Quelle honte, nanani, nanana. Non, les gens ont dit, ils se sont fait éliminer sans perdre.
Le projet n'était pas au même stade.
Non, bien sûr. Mais là, on est sur un nouveau projet. même si on a mis de l'argent, on est quand même sur un nouveau projet, on a redonné les clés du camion. Et pour moi, psychologiquement, c'est hyper important de faire quelque chose et de ne pas être la risée européenne, etc. Maintenant, si tu peux atteindre, en finissant premier, pour moi, tu atteindras les quarts de finale au minimum. Et à partir des quarts de finale, il peut se passer tellement de choses. Un tirage favorable, des blessures adverses, je ne sais pas. Personne ne s'attendait à ce que l'Inter Milan soit en finale de Ligue des Champions l'an dernier. Personne ne s'attendait à ce que le Milan AC soit en demi-finale de Ligue des Champions l'an dernier. En fait, il y a tout un tas d'aspects qu'il faut prendre en compte. Quand tu es en quart de finale, tu peux arriver en finale. Tu peux y arriver. Donc, quart de finale, ce serait vraiment top pour ce projet.
Nick, je te laisse réagir.
Du coup, je sais pas.
C'est sûr. Est-ce que t'attends quoi, toi, si pas on se qualifie, on est premier, deuxième, peu importe. Hein, voilà, on est qualifié. T'attends quoi cette saison en Europe?
D'aller le plus loin possible. Hein. C'est pour ça que j'aimerais.
Ouais, mais à quel moment c'est le plus loin possible? Ça, c'est la réponse générique. Mais à quel moment tu vas dire ouais, non, là, c'est cool? Ou « Ah là, c'est pas cool, bah putain, merde. »
Non, franchement, moment, déjà,
où est-ce que tu situes le curseur une fois qu'on est qualifié, toi?
Moi, j'aimerais bien juste qu'on passe le palier des huitièmes qu'on n'arrive pas à passer depuis plusieurs années, si on compte pas les années Covid. Donc, j'aimerais déjà ça. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on finisse premier, qu'on aille en quart. Comme ça, on passe un certain cap psychologique. Et surtout, moi, j'attends l'année prochaine et j'espère vraiment que ce mercato-là va avoir une seule personne qui prenne les décisions afin qu'on ait une équipe cohérente, parce que là, c'est vraiment plus possible. Là, quand tu regardes comment on est faible sur les coups arrêtés...
On parlera un peu mercato après, mais ouais. Vas-y rapidement, Anix.
Non, mais quand tu regardes les incohérences qu'on a, le milieu de terrain, déficit de taille, etc., les deux attaquants à 170 millions et qui sont assis sur le banc, franchement, je ne peux pas attendre grand-chose de cette année quand dès le départ... En fait, je ne pensais pas qu'on allait aller loin. Je peux être supporter et dire ouais, je suis le PSG, j'aime bien le PSG, on va casser la figure à tout le monde, nanana. Mais après, en général, tu te rends compte souvent que le PSG, il se fait punir sur les règles du football assez basiques quand on arrive dans les grands rendez-vous. Soit tu ne cours pas assez, soit tactiquement, c'est le néant, comme on a vu avec Galtier. Mais en fait, le football, ça, tu peux pas tricher. Ça peut passer un match, deux matchs, mais pour aller jusque. Très très loin, ça passera pas. Tu es obligé de bien travailler pour aller loin. Et donc, je peux pas attendre grand chose de cette équipe vu comment le travail il a été fait en amont.
Hello Ultra. Rico, je te laisse réagir. T'attends quoi, toi?
J'attends le strict minimum pour avoir une continuité, on va dire, assez décente. Et pour moi, c'est pas l'Europa League. Pour moi, c'est au moins un huitième de finale. Voilà, terminer idéalement premier de ton groupe. Derrière, en huitième de finale, tu peux affronter un adversaire qui est largement à ta portée. Tu peux te hisser en quart de finale et puis après, tu verras le tirage. Comme l'a dit Kevzor, l'année dernière, en quart de finale, on a du Benfica, on a du Napoli, on a du Milan, on a de l'Inter. Qui aurait pu penser que ces clubs-là, de base, allaient en quart, allaient en demi? Donc non, je pense qu'à partir du moment où tu commences à te qualifier et que tu passes un palier… Après, tout est possible. Il y a des gros clubs qui se font sortir. Arrivent certaines échéances où l'équipe en face, elle est dans le doute. Sur un ou deux matchs, tout est possible. Donc voilà, d'ici là, peut-être qu'on se sera aussi renforcé un petit peu. Peut-être qu'au niveau du jeu, ce sera peut-être aussi un petit peu mieux. Donc non, pour moi, c'est le minimum. Ce serait les huitièmes et les quarts. Et puis après, si tu te fais sortir en huitième ou en quart, ça ne change pas des années précédentes. Donc, ton projet peut continuer. On a un nouvel entraîneur, on le laisse bosser, etc. Et on verra les années d'après. Mais ça t'évite aussi un séisme avec cette Europa League. Et puis, il y a eu ce nouveau projet début RQSI. Je crois que Kevzor a commencé à en parler. Mais hormis, je crois, la première année où on se fait sortir par le Barça sans perdre, je crois qu'après, on enchaîne plusieurs quarts de finale. Donc voilà, c'est le début d'un projet, mais quand tu as des grands joueurs, quand tu as un bon effectif, normalement, tu dois aller au moins en huitième ou en quart. Et là où je ne suis pas d'accord avec Nyx, c'est que certes, on a des gros manques dans cet effectif, et notamment au milieu de terrain, mais des Ugarte, des Vitinha, des Emery, et après tout le reste de ton effectif, des Mbappé, des Dembélé, des Lucas Hernandez, des Marquinhos, du Hakimi, tous ces joueurs-là, et en plus, cette année, on a du banc. Tous ces joueurs-là, ce n'est pas le niveau Europa League. Donc, pour moi, c'est au moins huitième ou quart. Après, peu importe quand tu te fais sortir, je demande un minimum de manière. Pour moi, c'est surtout l'année dernière où on se fait sortir sans avoir joué. Ça, c'est honteux. Maintenant, tu te fais sortir en huitième ou en quart en ayant fait un bon match, en ayant tout donné. Au moins, là, on sera fier de l'équipe et on continue l'année d'après, on se renforce et le projet continue à monter.
Alors, très rapidement, Seb, on a parlé du match de demain déjà. On va en reparler après. Et c'était juste que là, on se posait la question. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'on était dans la projection, si on finit premier, deuxième, etc. Et t'inquiète pas, sur le match, on va faire plein de choses. Et je te trouve super gentil, moi, Rico. Je te trouve super gentil sur la lecture de nos performances passées. On a été ridicule, même quand on parle du Final Eight. Il faut voir qui on joue. Il n'y a pas seulement l'absence du public. Il y a aussi l'adversité qu'on a et les matchs qu'on fait, etc., etc. Il n'y a pas vraiment de quoi se sentir satisfait de la majorité de nos campagnes européennes et il y a certaines sorties qui sont plus proches de la honte que du plaisir. Faut appeler un chat un chat. Et c'est plus la norme que l'exception, ce constat-là. Et alors très rapidement, et après, si Nick, tu veux réagir parce que Rico t'a cité, moi très rapidement, je veux dire, moi ce que j'attends, c'est juste que l'équipe, elle joue bien, quoi. Et je sais que là-dessus, ça va être compliqué. Mais vas-y, je te laisse continuer, Nick. Si tu voulais.
Non, c'est ça, donc tu peux te faire sortir, mais ça dépend de la manière.
Là-dessus, on est tous d'accord. Il n'y a pas de débat là-dessus, mais le problème, c'est que ça fait des années qu'on se fait sortir et qu'on est ridicule. Donc au final, ça fait une addition de... En fait, les matchs dont Kevzor il part, c'était des matchs en 2015. La dernière fois que j'ai vu le Paris Saint-Germain être vraiment costaud dans des campagnes européennes, même si on sort en quart ou en demi, à chaque fois, c'était sur un but extérieur. C'était l'époque 2015-2016. Depuis le gros projet, soi-disant, où on a passé un cap, le gros projet 2017, en fait, chaque année, c'est ridicule. Donc, j'ai pas l'impression qu'on a monté en gamme, j'ai l'impression qu'on est descendu. C'est pour ça que je dis que des fois, faire un pas en arrière pour mieux avancer, ça peut être utile aussi. Et quand tu me dis, Rico, que Ugarte et Vitinha, ça peut faire l'affaire face à...
N'importe quel club européen.
Nick, pour moi, Vitinha, il est remplaçant au Paris Saint-Germain. Même en Ligue 1, il doit
pas être... Oui, mais bien sûr. Mais c'est pas non plus niveau Europa League. C'est dur. Je dis pas que Vitinha, tu vas gagner une Ligue des Champions, mais c'est pas niveau Europa League. Faut arrêter. Non. Et puis Nick, reculer pour mieux remonter.
Kev, tu vas juste après.
En fait, expliquez-moi en quoi aller en Europa League va nous aider à remonter la pente et à faire mieux que si on se fait éliminer genre en huitième ou en quart de finale de Ligue des Champions. Qu'est-ce que l'Europa League va nous... Bah si, t'as dit
J'ai répondu tout à l'heure, mais c'était pas le sujet. Il disait plus ça. On a déjà parlé tout à l'heure, on a dit qu'on laissait tomber l'Arlésienne et qu'on reprendrait le débat après le match. Vas-y, Kev, je te laisse réagir à ce que disait Nix.
Non, mais... Tu vois, faut aussi pas tomber dans le raccourci ou dans la démagogie, les gars. Faire passer Vitinha pour un joueur d'Europa League depuis le début de la saison. En fait, il a un rôle aussi. Non, Nix, lève pas les bras. J'exagère. Je grossis les traits, d'accord.
T'es coach. Kevzor, s'il te plaît.
Ouais, regarde les matchs de Vitinha. Je vais te dire quelque chose. À l'image d'un Matuidi et d'un Rabiot, comment il est utilisé en équipe de France, quand tu as Kylian Mbappé côté gauche qui ne défend pas, eh bien, Vitinha... Est beaucoup sacrifié aussi au détriment du collectif pour l'équilibre de l'équipe. Alors certes, c'est pas le joueur bling-bling, c'est pas le joueur esthétique ou qui va te faire gagner beaucoup de matchs, etc. Mais dans l'équilibre de cet effectif du côté à Kylian Mbappé, Vitinha est extrêmement important. Alors je ne dis pas qu'on a un milieu de terrain aujourd'hui de qualité, Final Eight, dernier carré de Ligue des Champions ou je ne sais trop quoi, mais je suis désolé les gars, Warren, Ugarte et Vitinha, c'est pas moins bon que Idrissa Gueye, Herrera, etc., qui nous ont permis aussi d'aller loin en Ligue des Champions, même si c'était des conditions particulières. Donc, même si je pense qu'on manque de qualité au milieu
de terrain... Truc Kev, en fait, moi je suis tellement d'accord avec ça, quoi. C'est tu compares à des saisons où effectivement au milieu de terrain tu avais un joueur qui était de classe internationale, même si moi j'y voyais beaucoup de défauts, qui était Marco Verratti, et ensuite de ça c'était des Stambouli, c'était des Krikoviak, c'était des Chèvres, le mot est dur, et surtout j'attaque vraiment pas l'humain, je parle vraiment que des footeux,
c'était des
joueurs, tu les mets dans une équipe d'Europa, Krikoviak si, mais si t'en as qu'un seul, t'es des joueurs où t'en as un comme ça dans l'effectif et autour ils sont mieux entourés, tu en sors en Europa, tu peux pas comparer. Et dire, par exemple, si on prend Viti, qui est très bon, hein, mais qui a malheureusement tendance à être très bon quand il fait des rentrées et qui a beaucoup plus de difficultés quand il commence les matchs. On l'a investi l'année dernière d'une pression maximale parce qu'on était en chien de milieu, mais effectivement, il a des qualités. C'est pareil, Ugarte, il a des qualités, mais de là à dire que c'est les insulter dire qu'ils ont le niveau Europa, non, on en est loin, parce que pour le coup, si tu compares avec les autres milieux en termes de régularité, en termes d'efficacité, en termes de etc., etc., prends les milieux de City, prends les milieux d'Arsenal, prends les milieux de qui tu veux, t'en es très loin.
C'est bah, bien sûr, mais on n'a pas dit le contraire. Genre là, j'ai vu dans le chat Bellingham, Tchouaméni, etc., c'est quoi? Bah, c'est des milieux de terrain pour gagner une Ligue des Champions. On n'a jamais dit que Vitinha et Ugarte, c'était des milieux pour gagner une Ligue des Champions. Mais c'est des milieux d'une équipe, voilà, exactement, de huitième, de quart de finale de Ligue des Champions.
Oui, mais c'est le niveau Europa.
Mais c'est pas des milieux Europa.
Il y a un moment où vous mettez une lecture sur le bah après on va pas revenir, c'est moi qui en
train de t'as les milieux top classe mondiale, t'as Vitinha Ugarte et t'as les milieux Europa League.
Vous dites n'importe quoi sur Europa
League. Les milieux chapeau 1, ouais. D'accord, que nous n'avons pas actuellement, clairement, parce que même si Warren est très très prometteur, ça n'en est pas un pour le moment. T'as les milieux chapeau 2, voire peut-être bas de chapeau 2, on en a pas mal. Et voilà. Mais c'est vrai qu'on manque de milieu chapeau. Mais il ne faut pas non plus faire passer ce milieu de terrain pour un milieu. Le milieu de terrain Europa League, les gars, c'est un milieu de terrain Arsenal. Lens. Tu as une équipe qui va être versée en Europa League.
Chapeau 2, je ne sais pas. Parce que chapeau 2, moi, je mettrais un mec comme Palinha, par exemple. Et Palinha, il mange la moitié de mon milieu.
Il a prouvé quoi?
Palinha. Guimarães, c'est chapeau 2 aussi. Guimarães, c'est chapeau 2, objectivement. Mais c'est pas, c'est pas un mec chapeau 1. Vous l'affirmez, mais c'est pas encore dit. Hein. Il n'y est pas encore dans le chapeau, pour moi.
Bref, on s'éparpille un petit peu du PSG.
On s'éparpille. Et justement, on en parle beaucoup.
Parlons mercato.
Ben voilà. Est-ce que c'est un secteur de jeu qui doit être compensé mercato? Rico, tu l'as demandé. Hop, tu go, et c'est à toi de commencer.
Oui, parce que même si on estime que Vitinha et Ugarte sont de meilleurs milieux que certains ne le pensent, il manque cruellement deux joueurs de chapeau 1 dans ce milieu-là. Maintenant, ça va être compliqué au mercato d'hiver d'aller chercher des top milieux mondiaux, mais tu dois essayer de trouver un ou deux joueurs qui a besoin de se relancer, qui est en délicatesse avec son club, qui ne joue pas trop au profit d'un autre joueur ou quoi, pour essayer justement, si tu te qualifies, parce que je pense que si tu vas en Europa, bon, c'est pas forcément nécessaire, mais si tu te qualifies, d'avoir peut-être une plus-value au milieu de terrain qui arriverait cet hiver. Mais dans tous les cas, l'été prochain, tu vas devoir aller chercher un ou deux top milieux mondiaux. C'est ce qu'on attendait déjà cet été. Ils ne sont pas arrivés. On a beaucoup de jeunesse. On a besoin justement de façonner aussi cette jeunesse et d'avoir des piliers à ce niveau-là. Et pour cet hiver, il y a des joueurs à aller chercher. Il y a notamment à Arsenal, Jorginho et Thomas Partey. Il y a Rabiot aussi que tu peux avoir. L'Arabie Saoudite, c'est compliqué, mais on parle aussi de Casemiro. J'ai vu qu'il avait été cité. Donc, il y a pas mal de joueurs comme ça que tu pourrais aller chercher pour un court moyen terme. Mais c'est clair que si tu te qualifies, tu en auras besoin.
Vas-y, Kev, t'attends quoi, toi, cet hiver?
Ah, mais de toute façon, je suis d'accord avec toi, Rico. Il y a pas mal de joueurs qui sont en possibilité. Je pense que, tu vois, je ne mettrai pas Thomas Partey dedans, étant donné que c'est un joueur régulièrement blessé, mais tu as aussi les joueurs qui sont en fin de contrat dans 6 mois, donc ils font que c'est des petits budgets et des joueurs intéressants. Il y a Rabiot, Jorginho dans ce cas-là. Il y a beaucoup de joueurs. Il y a Hojbjerg aussi, de, je ne sais pas si je prononce bien, mais de Tottenham, qui est en difficulté, qui est un très bon milieu de terrain. La fin space qui a duré des heures et des heures, et on a débattu beaucoup sur ce sujet, étant donné que à ce moment-là, on n'avait pas encore le fait que Warren reviendrait aussi rapidement et que Fabian, c'était peut-être moins grave que prévu. Mais forcément, tu dois quand même aller chercher un joueur. Le fait d'aller en chercher deux te briderait peut-être sur le mercato d'été, parce qu'on a quand même en quantité beaucoup de milieux de terrain. Mais il faut absolument au moins aller en chercher un. Et je pense que le profil le plus adéquat et le plus à même à améliorer notre milieu de terrain, c'est Adrien Rabiot, qui est quand même un joueur qui connaît le club.
Avec une ex, faut pas se remettre.
Il y en a qui aiment pas, il y a pas de souci.
Chacun son avis, mais Rabiot, clairement, footballistiquement parlant, on peut rien.
Il a le niveau, c'est un joueur qui peut jouer et qui maintenant.
Réponds à Steve. Non, il y a aucun souci. Mais vas-y, continue, Kev. C'était juste pour répondre.
J'avais même pas fait gaffe. Ouais. Donc Adrien Rabiot est un joueur qui, depuis qu'il a connu d'autres coachs, n'est plus réticent à jouer devant la défense. Est un joueur bon techniquement, qui sait ressortir les ballons sous pression, qui peut marquer des buts, de la tête aussi, dans un domaine où on n'est pas bon. Il est bon de la tête, peut nous aider sur coup de pierre arrêté def, sur coup de pierre arrêté off. Tu vois, c'est que, enfin, je ne sais pas, honnêtement, moi, je suis un peu comment dire, mitigé sur le fait que ça ne s'est pas bien passé quand il est parti. Il y a eu des choses que je n'aime pas du tout. Il y a des choses que je n'aime pas du tout chez Rabiot. Même le fait, tu vois, qu'il ait refusé l'équipe de France, etc. Moi, en tant que vrai supporter de l'équipe de France, tu vois, ça m'énerve vraiment. Mais concrètement, il faut parler factuel. On a besoin de joueurs aussi de qualité. Et Rabiot est un joueur de qualité. Voilà.
Vas-y, Nix, je te laisse enchaîner.
Je pense que je suis d'accord avec Rico et Kevzar sur le cas Adrien Rabiot. Certes, ça s'est mal terminé. Après, le joueur, il était jeune. Ça fait quoi, 5-6 ans qu'il est parti. Je pense que je ne suis pas la même personne que j'étais quand j'avais 20 ans. Donc, je ne vais pas m'arrêter à ça.
Footballistiquement, ouais, Véro, elle n'a pas changé, elle. Hein.
Oui, mais Véro, elle était beaucoup plus sobre à la Juve. En fait, il faut juste la cadrer parce qu'à la Juve, elle n'a pas fait autant de scandales que ça. Là, juste, elle est sortie dans la presse hier pour dire qu'il n'y a rien qui est fait avec la Juve. Mais sinon, ça fait 5 ans que je n'entends plus, à part ses déboires avec l'équipe de France. Mais sinon, en fait, Rabiot, moi, de ce que j'ai comme retour, c'est que c'est un mec qui aimait grave le club. Après, il y a eu... On ne peut pas reprocher à un joueur quelque chose qu'on ne connaît pas tout le dossier. Moi, je ne sais pas ce que le PSG a fait dans ce dossier-là. Et moi, il y a un truc qui m'interpellait avec le dossier Rabiot au niveau sportif, c'est que en fait, le mec, tu aurais pu le prolonger longtemps avant. Tu as voulu le garder à un salaire de 200 000 €, je ne sais pas quoi, jusqu'à la fin de son contrat, parce que tu as voulu gratter de l'argent. Donc au final, le mec, il était titulaire en Ligue des Champions aux côtés d'autres joueurs et il prenait des salaires de joueurs de 17 ans. En fait, tu aurais pu le prolonger 2 ans avant, tu aurais réglé ton problème. Tu as vraiment attendu la dernière minute pour le prolonger. Et au final, c'est ta faute aussi. Donc, je ne peux pas tout remettre sur les épaules du joueur. Donc, sportivement, Rabiot, tu le fais revenir. Moi, je trouve qu'il répond à beaucoup de problèmes. Là, tu mets un Rabiot, Zaïre Emery en 8 avec les deux qui peuvent porter le ballon, faire la dernière passe, etc. Ouais. Moi, je trouve que c'est quasiment la meilleure chose que tu peux faire de ce mercato. Tu peux aller chercher Zubimendi, peut-être, qui ça peut être encore mieux et tu le mets en 6.
Pas un hiver, Nix.
Il a une clause.
Non, la Sociedad va se qualifier.
La Sociedad a dit, il l'a dit mot pour mot lui-même cet été, je ne partirai pas de la Sociedad cette année parce que je joue la première fois la Ligue des Champions avec la Sociedad.
Ok, du coup, le meilleur transfert à faire pour moi cet hiver. Je ne parle pas du meilleur milieu de terrain possible pour le Paris Saint-Germain. Je parle dans le cas de cet hiver. Le joueur, il est à 6 mois de la fin de contrat. Moi, je trouve qu'il n'y a personne d'autre que tu peux prendre mieux qu'Adrien Rabiot si tu te qualifies en 8e de finale. C'est un mec qui a de l'expérience, il a joué des grands matchs, il a joué avec l'équipe de France, la Coupe du Monde, l'Euro, avec la Juve. Le mec, il a. Tu m'as dit quoi ?
Il est capitaine de la Juve.
C'est ça le problème aussi, c'est que là, la Juve joue le titre et qu'il est capitaine. Donc, est-ce qu'il va partir cet hiver ?
Moi, je trouve que c'est. En plus, au-delà de. Bon, après, vous êtes tous complètement pour, hein. Mais moi, je suis vraiment pas pour. C'est même pas lié au passif. C'est juste lié au joueur qui est très, très bon. Mais déjà, est-ce que c'est pas le même profil que Warren Zaïre-Emery ?
Un peu. Mais il a beaucoup de choses en plus. Côté offensif, il a raison. Après, dans le reste, il y a plein de qualités que Zaïre-Emery, il n'a pas. Après, il a le côté box-to-box de Zaïre-Emery où il va frapper de loin, où il va venir faire la dernière passe, il va se projeter. Donc là, je suis d'accord que ça se touche. Après, côté défensif, je pense Zaïre-Emery, il est beaucoup plus discipliné, il fait beaucoup plus le taf que Rabiot. Après, il y a le côté défensif aussi sur les coups de pied arrêtés que Rabiot a, que Zaïre-Emery n'a pas. Et pareil, sur les, comme il a dit Kevzor, dans la surface, quand tu vas faire des centres, des corners, il peut te mettre des buts aussi.
Mais pour moi, en soi, tu le mets sur les plates-bandes de Warren et tu freines la progression de Warren. Je finis après, je vais te réagir, Kevzor. Pour moi, ce qui nous manque, c'est un profil vraiment créatif. Un remplaçant qui est clair. Et en fait, tu ramènes Rabiot, tu ramènes un énième profil qu'on a déjà. Et ce n'est pas ce qui va nous aider et ce qui va nous permettre de franchir un cap. Mais je te laisse réagir.
Moi, je te dis, en fait, Warren, il est plus costaud sur certains aspects, mais Rabiot est un joueur. En fait, ce n'est pas un joueur excellent, mais il est complet dans quasi tous les domaines. Il est bon partout. C'est-à-dire que, j'insiste, Warren n'est pas bon sous pression dans un bloc bas, mais Rabiot sait le faire. On l'a vu face au Barça, quand il avait joué Sentinelle et qu'on leur met 4-0 à domicile, on était sous pression, on jouait bloc bas médian, et tous les ballons ressortaient de lui. Rabiot, c'est un joueur déjà qui joue déjà axe gauche parce qu'il est gaucher aussi. Il peut jouer, vraiment, j'insiste, Sentinelle, là où il est très bon en Sentinelle, il peut jouer en double pivot à gauche, il peut jouer relayeur gauche, chose que Warren ne peut pas faire. Warren, il ne peut pas jouer Sentinelle. Rabiot est un joueur qui est très bon dans les petits espaces pour combiner. Warren est moins bon là-dessus. Warren est bien plus puissant que Rabiot. Rabiot a quand même aussi pris beaucoup en maturité. Je pense que ce qui lui a permis aussi de prendre beaucoup en maturité, c'est cet épisode en équipe de France. Quand il a refusé la sélection en étant, je ne sais plus comment on appelle ça là, réserviste. Du coup, en étant réserviste, je ne suis vraiment pas fan de ce qu'il a fait. Et moi, je trouve ça trop facile de l'avoir rappelé aussitôt. Mais force est de constater que je pense que Deschamps l'a cadré, lui a donné vraiment quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, il est titulaire indiscutable dans cette Juve qui est quand même très moyenne. Il porte cette Juve, il en est capitaine.
On a eu 36-15 acheté Rabiot présenté par Kevzor. Et d'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à dire si vous avez validé ce 36-15 ou si vous ne le validez pas du tout. Qu'est-ce que vous pensez de Rabiot? Est-ce que vous en voulez? Parlez-en avec nous dans les commentaires, on se fera plaisir. Et notamment Kev, hein, si vous en pensez du mal, Kev il viendra au taquet pour vous remettre à votre place. Et moi, je reviendrai au taquet derrière pour remettre Kev à sa place, etc., etc. Mais on va se faire des petits fights dans les commentaires là-dessus. Et on va lâcher la Rabiot parce que mine de rien, il y a un autre sujet. On a des blessés longue durée et un poste où les inquiétudes commencent à apparaître. Les solutions ne sont pas si cohérentes que ça, à savoir Nuno Mendes. Est-ce qu'il faut s'activer pour cet hiver? Vas-y, Nix.
Alors oui, il y a Presco et Nuno qui ne vont pas arriver avant février. S'il vous plaît, arrêtez de mettre des commentaires de fou parce qu'on est en train de perdre Rico, s'il vous plaît. Du coup, pour moi, Presco, il va partir. Parce que là tu es dans ta situation, tu es blessé. Il n'y a personne qui t'a vu jouer depuis 2 ans. Je ne vois pas qui va te donner un gros salaire. Et t'as toujours pas prolongé au Paris Saint-Germain. Donc, Presco, moi, je pense que le cas Yoro qui va venir cet été, c'est probablement pour le dossier Presco. Après, Nuno absent, il faudrait un latéral gauche. Je pense qu'il serait temps de remettre Hernandez dans l'axe. Donc, pour aller chercher un latéral gauche cet hiver, il y a qui est disponible. Il n'y a pas grand monde. Parce que j'ai vu que Jorge Mendes, il ne voulait pas nous donner ses joueurs, là, parce qu'il trouve qu'il en a déjà assez chez nous. Donc, côté arrière-gauche, je ne sais pas vraiment qui aller chercher, mais je pense que c'est...
Réponds vite à la question Nix, quand même. Allez, je ne sais pas si c'est un troll ou pas, mais bon...
C'est un mec qui jouait dans notre effectif il y a quelques temps, mais je ne sais pas. Je pense qu'il est... Peut-être, si ça se trouve, il ne joue plus avec nous, je ne sais pas. Bref, du coup, faudrait recruter un latéral gauche, effectivement. Après, je laisse mes collègues voir s'ils ont des pistes. Moi, je n'en ai pas perso. Il y a Quentin Merlin qui était plutôt pas mal, mais je ne sais pas si on peut sortir de Nantes en plein mois de décembre. Et à être nourri, je ne pense pas qu'il va quitter Wolverhampton aussi en plein mercato d'hiver.
C'est pourtant, c'est pile le profil qu'il nous faudrait. Mais je vais laisser enchaîner Kev, tout simplement, parce qu'il a presque levé la main. Donc, du coup, comme je ne savais pas qui, c'est à toi, Kev. Vas-y, enchaîne.
Ah, ben, j'ai pas dû faire exprès, mais du coup, maintenant, je lisais certains commentaires. Les gens sont quand même très méchants avec certains joueurs de notre effectif qui sont parisiens, mais bon, bref.
Chacun a le droit d'avoir son avis.
Ouais. Non, mais latéral gauche, on n'a pas beaucoup. C'est vrai qu'il y avait la piste Ryan à Itnouri, c'est ça, qui avait été une piste chaude. Je ne sais pas où ça en est. Faut voir. Honnêtement, faut voir si c'est pour ramener un joueur qui va nous mettre des bâtons dans les roues autour de Nuno. De toute façon, Nuno, ce n'est même pas février. Hein. Ce sera mars, avril même, de ce qui est sorti. Et faudra voir, honnêtement, faudra voir. C'est vrai que le petit jeune de Nantes, moi, je trouve qu'il est intéressant. C'est un joueur qui a beaucoup de choses qui sont intéressantes sur le plan offensif. Il ne gênera pas la progression de Nuno s'il revient. Donc, je sais, honnêtement, je n'ai pas beaucoup de pistes à gauche. Il n'y a pas beaucoup de latéraux côté gauche.
Mais indépendamment qu'il n'y en a pas beaucoup, est-ce que ce n'est pas un poste où on est quasi obligé de recruter?
Pour moi, non.
Vas-y, Rico, enchaîne.
Pour moi, non, parce que tu as la chance d'avoir Mukiele qui arrive à dépanner à droite, à gauche et en défense centrale. Tu as Lucas Hernandez qui peut y jouer aussi. Donc, tout dépend en fait. Après, c'est, en fait, le problème, c'est que là, c'est que le club qui peut savoir quand est-ce que Presco pourra rejouer. À partir du moment où il peut rejouer au moins en février, pour moi, tu n'as pas besoin d'aller chercher quelqu'un parce que tu as Nuno Mendes qui va arriver aussi normalement en mars, avril, grand max. Et là, en fait, là, tu as quoi ? Tu as encore deux matchs à jouer. A priori, ça va le faire. Tu reprends ta saison en allez, janvier, mi-janvier. Donc, tu auras quasiment Presco disponible. Donc, tu peux avoir à gauche Mukiele, Hernandez ou même Presco qui peut dépanner à gauche, sachant que maintenant, le rôle aujourd'hui du latéral gauche, il est vraiment de rester aux côtés du défenseur central, comme avec Lucas Hernandez. Au pire du pire, tu as le petit Serif Naga pour jouer des matchs de Coupe de France ou de Ligue 1 si vraiment tu dois dépanner. Donc, est-ce que tu as besoin vraiment d'aller casser le portefeuille ou d'aller trouver quelqu'un, sachant que tu as Presco qui peut être dispo janvier, février ou Nuno Mendes mars, avril ? Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Personnellement, sachant que tu as un Mukiele qui est ultra polyvalent, j'irais plus chercher un milieu de terrain. Après, ça dépend, comme j'ai dit, quand est-ce qu'ils vont revenir Presco et Nuno.
Je te laisse enchaîner, vas-y, Kev.
Concernant Presco, moi, des retours que j'ai eus, c'est qu'il pourrait revenir dans le groupe là dès maintenant. Mais étant donné qu'on n'a pas un besoin urgent, ils sont vraiment, en fait, ils prennent vraiment le temps de le faire revenir tranquillement et de ne pas se précipiter pour pas qu'il y ait de rechute. Le tendon d'Achille, c'est une blessure très, très complexe, très difficile. Et ça fait 3 semaines qu'il s'entraîne et qu'il fait la totalité des séances avec le groupe. Donc voilà, c'était une petite précision que je voulais faire. Il n'est pas impossible qu'on le voit avant la fin de l'année dans le groupe pour faire une quinzaine de minutes.
Il y a peut-être un problème de niveau parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, mine
de
rien.
Problème de niveau, physiquement. Il y a beaucoup d'aspects que tu dois prendre en compte. Mais vu qu'en défense centrale, on a quand même du monde aujourd'hui, qu'on a peu de blessures, on n'est pas dans l'urgence. C'est aussi pour ça que Presco n'est pas mis en avant de manière urgente. Donc voilà, mais comme l'a dit Rico, pour moi, ça ne sert à rien de se précipiter sur un latéral gauche pour se précipiter. On a des besoins plus urgents et j'avais oublié de. C'est vrai que Mukiele peut rendre de fiers services à ce poste-là.
Et ce qui est fou avec ce joueur, c'est qu'il est, il est jamais exceptionnel, mais il est tellement rarement, enfin, il est quasi jamais décevant non plus, en fait. Et il t'apporte, tu sais, c'est le solide 12 sur 20, mais à chaque fois, il te sort le 12 sur 20, quoi. Il te sort le 12 sur 20, ouais. Il te le sort derrière, il te le sort devant. En vrai, il était meilleur que.
Il est bon de la tête. Hein,
sur la gauche, offensivement.
Il est bon de la tête aussi, Drias.
Ouais.
Et on a des gros soucis sur le domaine aérien.
Vas-y, Nix.
Non, juste pour dire, il y a deux choses importantes qui ont été dites dans le chat.
Ah bah,
la première, c'est que Hakimi ne sera pas là pendant la CAN. Donc ça, ça va être compliqué. Et deuxièmement, moi, je ne comprends pas pourquoi Serif Naga ne joue pas en Ligue 1, en fait. Ça,
il n'y a pas le niveau. Règle.
En Ligue 1, pourquoi pas ouais. En Ligue 1, moi, de ce que j'ai vu du petit joueur, en fait... C'était le même profil que Nuno, et donc ça ne changeait pas forcément la manière de jouer. C'était un latéral qui débordait énormément, qui centrait. Et du coup, moi, je l'aurais fait jouer en Ligue 1. En Ligue 1, on n'a pas d'impératif. Tu peux, c'est pas genre mettre Serif Naga face à Strasbourg qui va te faire perdre un match. Tu fais souffler Lucas Hernandez parce que...
Tu l'avais joué en Ligue 1.
Non, mais c'est peut-être une question de profil aussi, peut-être parce que Serif Naga, c'est très offensif, même s'il défend plutôt bien. C'est assez offensif et sachant qu'à gauche, il préfère mettre des Lucas Hernandez, des joueurs quand même qui défendent bien. Quand c'est Mukiele, pareil. Quand c'est Soler, c'est pareil, il défend aussi beaucoup. Donc, c'est peut-être aussi une question de profil. Peut-être qu'il juge que Naga est trop, trop offensif.
Puis il est jeune, hein, il est frais, Naga, quand même.
À Youth League, je ne l'ai pas vu jouer. Par contre, quand il a joué avec nous en prépa, il était bon. Donc, faut voir aussi si la Youth League, ça lui fait du bien. Parce que c'est bien beau de mettre des petits en Youth League. Il y en a qui vont se développer et tout, mais il y en a qui vont s'ennuyer. Donc, ça, faut faire. Ouais.
Si tu es au-dessus du lot, je suis désolé, mais tu dois quand même te démarquer un minimum en Youth League. En Youth League, il n'est pas bon. J'exagère, je grossis le trait, bien sûr. Mais en Youth League, il n'est pas au niveau. Pendant la prépa, en fait, tout est relatif. Regarde les équipes contre qui on a joué en prépa. Il n'a pas non plus été bon. Moi, je ne l'ai pas trouvé bon. En prépa, on a joué contre des équipes asiatiques.
Les matchs de prépa, c'est des matchs de prépa, quoi.
Il y a beaucoup de joueurs qui ont surfé sur la dynamique de la prépa, qu'on pensait être des cracks et qui aujourd'hui n'arrivent même pas à dépasser la Nationale 2, les gars. Je vais pas en citer, mais là, ne vous fiez pas à la prépa. Et je le dis, j'en ai parlé avec beaucoup de personnes, Serif Naga n'est pas au niveau, du moins pour le moment.
Ok.
Ok. Et ben après pas.
Vas-y, Rico.
Non, juste par rapport à Hakimi, c'est vrai qu'il va faire la CAN, mais c'est un mois, c'est de mi-janvier à mi-février. Donc, et puis, tu as toujours Mukele à droite et tu as Carlos Soler qui a dépanné à droite et qui était bon.
Il a montré qu'il était capable d'avoir un peu plus. Soler, au niveau du profil, avait un peu plus le même profil que Hakimi tel qu'il est utilisé, j'ai trouvé. Bon.
Ouais, avec l'utilisation de monter au milieu et tout, ça correspond plus à Soler. Ouais.
D'ailleurs, Soler a été ridicule à gauche et intéressant à chaque fois qu'il joue à droite. Tu voulais intervenir, Nix, tu vas y aller?
Non, bah du coup, je me rappelle plus, j'ai laissé la parole à Rico, donc vas-y.
Bon, ok, bah après, je sais pas, peut-être qu'il y a des questions auxquelles je suis à côté desquelles je suis.
J'ai vu passer plusieurs fois le sujet du milieu créatif, mais tout à l'heure, on parlait du milieu, on va dire, profil plus défensif, où on a pu citer 3-4 noms qui sont un peu en difficulté ou à 6 mois de la fin de leur contrat. Mais le créatif, c'est très très compliqué d'en ressortir un qui pourra vraiment t'apporter une vraie plus-value dès maintenant. J'en vois vraiment quasiment aucun. Alors, j'ai vu le nom de Forsberg passer, mais tout à l'heure, on parlait de joueurs de niveau Europa League. On a mis des Vitinha, etc., chapeau 2. Pour moi, Forsberg, c'est la même chose. Ça reste, c'est pas forcément Europa League, mais ça reste chapeau 2. Pour moi, Forsberg, aujourd'hui, il vient, il va pas te changer ton équipe, il va pas te voilà. Donc, je pense que vaut mieux attendre le mercato d'été pour aller chercher un Bernardo Silva ou un joueur où tu casses vraiment ta tirelire. Cet hiver, ça va être quand même compliqué pour ça.
Les gens, ils sont pas objectifs. Tu vas pas chercher des joueurs comme ça en hiver. Les clubs te lâchent pas ce genre de joueur en hiver. En fait.
Dani Olmo, c'est mort, mais bon, ça fait rêver. Oui. C'est le genre de joueur, c'est le profil.
Alors, péter la clause de Bernardo Silva.
Mais j'ai pas compris pourquoi à aucun moment on s'était positionné sur Dani Olmo cet été alors qu'on parlait de Bernardo Silva. Et pourquoi ça parlait pas de Dani Olmo alors qu'il avait pile le profil?
Parce qu'ils veulent absolument Bernardo Silva depuis des années et qu'ils sont omnubilés par ça. Et pour moi, il allait venir cet été, mais simplement City l'a retenu vu que Mahrez est parti. Et Paris s'est pas retourné. Et pour moi, Paris va le signer cet été. Donc du coup, ils veulent prendre personne à sa place.
Je préfère prendre personne en hiver que prendre encore des gars comme Paredes à 47 millions d'euros ou des joueurs qu'on a toujours fait venir en hiver qui sont des flops et qu'on n'arrive pas à se débarrasser derrière.
Ah, très bonne question, Flaco 93. Il y en a un autre qui était tout aussi bon et il s'appelle Eman Kari. Il faut le faire revenir aussi. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne de son prêt à Lorient.
Par contre, minutes de temps de jeu.
Bah, faut le faire revenir parce que c'était un joueur, il était très bon. Si c'est pour ne pas jouer à Lorient, autant le faire revenir. Et c'est pareil pour. Après lui, il faut le reprêter derrière, mais il faut refaire venir Noël et Mina parce qu'il ne joue pas à Sampdoria. Donc il y a plein de petits, il faut les faire revenir et soit les reprêter ailleurs. Il faut les reprêter ailleurs.
Il faut les reprêter parce qu'un Zaïre Emery, il t'apporte quelque chose aujourd'hui quand il joue, mais un Emane Kari, est-ce qu'il va t'apporter quelque chose?
Il faut les reprêter derrière. Mais là, ils n'ont pas de temps de jeu. Et moi, parce que quand j'ai regardé la Youth League, à un moment, Emane Kari, il n'était pas. Il y a des choses que nous, on ne sait pas qu'on regarde de l'extérieur. Mais sur le terrain, Eman Kari m'impressionnait plus que Zaïre Emery quand je l'ai regardé jouer. Il y a le côté probablement Zaïre Emery, tu vois, côté maturité, tout ça, que quand tu connais le joueur, tu es au sein du club, tu peux dire que je vais miser sur celui-là et pas sur celui-là. Peut-être que lui, mentalement, côté entourage, ce n'est pas assez solide. Donc, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Mais sur le côté footballistique, sur le terrain, Eman Kari était beaucoup plus impressionnant que Zaïre Emery, faut le savoir.
Il y a une réalité quand t'es jeune, pas, alors, rien, et la maturité, c'est quelque chose, tu peux pas la juger, en fait. C'est pareil, c'est ce que disait Kev tout à l'heure, c'est sur les matchs de pré-saison. L'effectif en face est tel, le temps que tu as pour réagir est tel que la différence de niveau. Tu peux pas te faire une idée d'un joueur tant qu'il n'est pas confronté. Et là où un Warren Zaïre Emery, là où il est hallucinant, c'est que dès qu'il s'est retrouvé physiquement sur les terrains de Ligue 1, mais dès la minute 1, hein, il envoyait valdinguer des mecs qui avaient 10 ans de plus au niveau des duels physiques. Il a répondu tout de suite physiquement. Il a très vite trouvé des manières de se rassurer, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, ce qui lui a permis d'exprimer le reste de son jeu. Et si tu mets un carry, le fait qu'il ait un dixième de seconde de moins, un mètre de moins pour bouger, tu n'as aucune garantie, mais juste zéro, quoi.
Il va revenir de près.
Il y a une histoire de clause.
Avec Lorient, ouais, il y a un truc bizarre.
Je me souviens plus, faut vérifier.
Mais en tout cas, ce qu'il faudrait, ce serait le prêter dans un club qui va le faire jouer pour qu'on puisse voir vraiment son niveau. Parce que là, Lorient, il joue pas. Donc, pareil pour Noah Lemina. Noah Lemina, on l'a prêté à la Samp, il joue pas.
Bah oui, lui aussi, il faut qu'il
revienne. Il a joué en équipe B même. Il a joué en réserve.
Problème de comportement.
T'es sûr de ça?
Je suis sûr à 100%.
En tous les cas, faut, si ça ne se passe pas bien là-bas, il faut le faire revenir et le reprêter
ça
ailleurs.
Se passe moyennement, parce qu'en Italie, ils sont beaucoup plus stricts. Les entraînements demandent certaines choses et Noël et Mina n'étaient pas sérieux. Et voilà.
Ben, je le ferai jouer ailleurs quand même pour voir s'il a d'autres problèmes. C'est comme le petit Kays Wiz. Genre, il a eu un problème au Barça. Donc, tu dis peut-être qu'il y a un problème au Barça. Après, quand ça se passe au PSG, il y a encore un problème. Là, tu vois qu'il y a une continuité dans le comportement. Moi, je lui laisserai une chance. Les MENA, tu le prêtes ailleurs. S'il y a encore des problèmes, bah next. Mais là, pour l'instant, si ça se trouve, c'est le club, l'environnement. C'est pas forcément évident d'aller jouer en Italie.
Ça, puis il est jeune. T'as le droit, comme disait Nick, t'as le droit à faire une erreur de jeunesse. Après, la question, c'est est-ce que tu comprends après avoir fait l'erreur?
Ouais, c'est ça. Et y a justement, en parlant de ça, il y a énormément de jeunes, quand même, surtout dans le centre de formation du PSG, qui se croient déjà arrivés. Et qui, quand il faut passer en pro et qu'il faut faire un peu plus au niveau du comportement, au niveau du travail, etc., ne le font pas, pensent qu'on leur doit tout parce qu'ils sortent du centre de formation du PSG, que ce soit avec le PSG ou ailleurs. Et du coup, il y a de vrais problèmes de comportement. On peut en citer énormément des joueurs comme ça. Donc, c'est ça aussi la différence avec notamment un Zaïre Emery ou un Kingsley Coman qui soit parti. Enfin, à la Juve, il n'a pas joué, mais après, quand il a été transféré au Bayern, etc., c'est imposé.
Ouais, c'est un 6, Karim, mais a priori, donc j'ai vérifié, ouais, il a signé un prêt standard avec option machin.
6 Lorient, ouais.
Bah, il joue plus 6, hein, Karim, quand il joue. Hein.
Bah, peut-être à Lorient, mais moi je l'ai vu jouer plus 8-10. Hein.
Ouais, Karim, pour moi, c'est plus un 8.
Ah, okay. Techniquement, il est très fort, il frappe, il met des buts. Dans la dernière passe, il est bon. Moi, je l'ai vu plus haut sur le terrain que Zaïre, des fois.
En Youth League, ils étaient avec Zaïre et Xavi Simons qui était devant eux.
C'est ça.
Bon, après, là, je vois plus trop de questions. Ça fait une heure.
Xavi Simons.
Hein?
Xavi Simons.
Ah oui, c'est arlésienne. Vivement l'année prochaine qu'on arrête de parler. Va-t-il revenir? Doit-il revenir? Etc, etc. Toujours les mêmes arguments. Mais comme tu voulais y aller, Réco, let's go.
Non, bah simplement que c'est conditionné aussi à Mbappé. Si Mbappé reste, ça va être compliqué de ramener Simons dans cette équipe-là. Tu as déjà énormément d'offensifs qui ne jouent pas. Donc, après, ça dépend si tu veux le faire évoluer au milieu. Mais pareil, si tu vas recruter un créatif comme Bernardo Silva au milieu, où est-ce que tu vas faire jouer Xavi Simons? C'est compliqué. En tout cas, il va falloir lui trouver une place si tu veux le rapatrier. Sinon, on parle déjà d'une deuxième année en prêt à Leipzig. Donc, ça pourrait être une très bonne option aussi.
Kavzor Onyx, qui veut y aller, vas-y sur.
Moi, je pense que c'est un bon joueur, mais le championnat allemand met en avant aussi certaines qualités. Donc, je ne sais pas si concrètement c'est un joueur qui arrivera à s'imposer de manière titulaire indiscutable au PSG. Je ne sais pas. Je me pose quand même pas mal de questions sur Simons. Il est bon dans le dernier geste, dans la dernière passe, le but, etc. Mais je ne suis pas convaincu qu'il s'impose au PSG. Donc, à voir, j'ai le cul entre deux chaises.
Et toi, sur quelle chaise il est ton cul, Anix?
Mon problème, c'est Bernardo Silva, en fait. Je ne sais pas s'ils vont le prendre ou pas. Et c'est ce qui conditionne mon avis là-dessus. Parce que s'il vient, ça va soit boucher Zaïre Emery ou Xavi Simons. Soit tu ne peux pas le faire jouer sur l'aile droite parce qu'il y a déjà Dembélé. Donc je ne pense pas que tu puisses. Enfin, il peut jouer à gauche, mais ce ne serait pas bien utilisé Bernardo Silva. Donc si Bernardo Silva revient et que Mbappé, vient et que Mbappé reste, ça me paraît un peu bouché pour lui. Et vu comment il a joué ces deux dernières saisons, ce n'est pas un mec qui va accepter d'être remplaçant. Donc ça peut créer des problèmes, mais moi tous les jours je le fais revenir. Moi, si tu prends pas Bernardo Silva, tu fais un milieu de terrain avec Zaïre Emery et Xavi Simons en 8, t'en as un qui est bon derrière, mais t'en as un qui est beaucoup plus fort à la finition dans la dernière passe et qui peut, les deux ils peuvent se projeter, mais Xavi Simons, il fait des passes vers l'avant quasi 9 fois sur 10. Et ça va me...
Son problème. Hein. Il les fait 10 fois sur 10. Même la fois où il ne faudrait pas la faire, il l'a fait vers l'avant. C'est le bug de Simons.
Mais je préfère ça. Moi, je vous le répète, parce que les gens ils pensent que je fais une fixette sur Vitinha. Mais ce n'est pas sur Vitinha le joueur, c'est sur la façon de jouer de Vitinha. C'est quand je vois Mbappé arriver, essayer de faire une 1-2 avec Vitinha
et qu'il ne lui remet pas, qu'il se retourne et qu'il fait la passe derrière, ça, c'est des trucs, ça me dégoûte du football. Je vous le dis, ça me dégoûte.
Mais donc, tu remarqueras, Nick, que ces trucs-là, il les fait quand il est titulaire, mais jamais quand il est remplaçant.
Possible. C'est fort possible.
C'est fait. C'est dans les faits. Et je pense que c'est au niveau mental, du coup. Il y a un bug au niveau mental où il ne comprend pas ce qu'on lui demande en début de match. Mais il y a quelque chose à ce niveau-là. Mais voilà, on va pas lancer le débat Vicinia, parce que rien, ça fait une heure et quart, même si Nick, s'il a envie de ronger son frein, pareil dans les commentaires. Et d'ailleurs, j'ai essayé de moins le faire. Je ne l'ai pas fait une seule fois, mais je vais quand même le faire maintenant. Et d'ailleurs, ben, bonjour à tous ceux d'ailleurs qui sont sur Deezer, Spotify et les usual suspects. N'hésitez pas à lâcher votre abonnement, n'hésitez pas à lâcher votre like. Ça nous aide, ça nous permet dans le référencement de vous proposer un contenu de meilleure qualité. On est là et n'oubliez pas, c'est demain soir, il me semble, en X. Demain soir,
débrief.
On a une belle surprise. Donc après le match, bah, même si vous êtes dehors, n'hésitez pas, ne serait-ce qu'à check sur YouTube en sortant votre téléphone. N'hésitez pas à check. Vous pourrez voir tout ça demain soir. Et d'ici là, bah, bonne préparation de match. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Ciao tout le monde.
Ciao.